Frantz Fanon, Les damnés de la Terre, 1961. L'intellectuel colonisé s'est jeté avec avidité dans la culture occidentale. Semblable aux enfants adoptifs qui ne cessent leur investigation de nouveau. Il ne se contentera pas de connaître Rabelais ou Diderot, Shakespeare ou Edgar Poe. Il bandera son cerveau jusqu'à la plus extrême complicité avec ces hommes. Mais au moment où les partis nationalistes mobilisent le peuple au nom de l'indépendance nationale, l'intellectuel colonisé peut quelquefois rejeter du pied ses acquisitions, qu'il ressent soudain comme aliénantes. Toutefois, il est plus facile de proclamer qu'on rejette que de rejeter réellement. Cet intellectuel qui, par le truchement de la culture, s'était infiltré dans la civilisation occidentale, qui était arrivé à faire corps, c'est-à-dire à changer de corps. Avec la civilisation européenne, va s'apercevoir que la matrice culturelle, qu'il voudrait assumer par souci d'originalité, ne lui offre guère les figures de proue capables de supporter les comparaisons avec celles nombreuses et prestigieuses de la civilisation de l'occupant. L'histoire, bien sûr, écrite d'ailleurs par des Occidentaux à l'intention des Occidentaux, pourra épisodiquement valoriser certaines périodes du passé africain. Mais debout devant le présent de son pays, observant lucidement, objectivement, l'actualité du continent qu'il voudrait faire sien, l'intellectuel est effrayé par le vide, l'abrutissement, la sauvagerie. Or, il sent qu'il lui faut sortir de cette culture blanche, qu'il lui faut chercher ailleurs, n'importe où, et faute de trouver un aliment culturel à la mesure du panorama glorieux étalé par le dominateur, l'intellectuel colonisé très souvent va refluer sur des positions passionnelles et développera une psychologie dominée par une sensibilité, une susceptibilité exceptionnelle. Ce mouvement de repli, qui procède d'abord d'une pétition de principe dans son mécanisme interne et sa physionomie, évoque surtout un réflexe, une contraction musculaire. Ainsi s'explique suffisamment le style des intellectuels colonisés qui décident d'exprimer cette phase de la conscience en train de se libérer. Style heurté, fortement imagé, car l'image est le pont-levis qui permet aux énergies inconscientes de s'éparpiller dans les prairies environnantes. Style nerveux, animé de rythme, de part en part habité par une vie éruptique, coloré aussi, bronzé, ensoleillé et violent. Ce style qui a en son temps étonné les Occidentaux n'est point, comme on a bien voulu le dire, un caractère racial, mais traduit avant tout un corps à corps, révèle la nécessité dans laquelle s'est trouvé cet homme de se faire mal, de saigner réellement de sang rouge, de se libérer d'une partie de son être qui est déjà renfermée. Pourri. Combat douloureux, rapide, où immanquablement le muscle devait se substituer au concept. Sur le plan poétique, cette démarche atteint des hauteurs inaccoutumées. Il demeure que sur le plan de l'existence intellectuelle, débouche fréquemment une impasse. Lorsque parvenu à l'apogée du rut avec son peuple, quel qu'il fût et quel qu'il soit, l'intellectuel décide de retrouver le chemin du quotidien. Il ne ramène de son aventure que des formules terriblement infécondes. Il privilégie les coutumes, les traditions, les modes d'apparaître et sa quête forcée, douloureuse, ne fait qu'évoquer une banale recherche d'exotisme, C'est la période où l'intellectuel chante les moindres déterminations du panorama indigène. Le boubou se trouve sacralisé, les chaussures parisiennes ou italiennes délaissées au profit des babouches. Le langage du dominateur écorche soudain les lèvres. Retrouver son peuple, c'est quelquefois dans cette période vouloir être nègre. Non un nègre pas comme les autres, mais un véritable nègre, un chien de nègre, tel que le veut le blanc. L'intellectuel a l'inventaire des mauvaises manières et se dépêche de se rappeler ce peuple dont on a décidé que déclenche cette démarche installée sur le territoire. Lorsque les colons sur ces assimilés se rendent sauvés, commence à se dire tout le système, chaque colonisé gagné, veut. Lorsqu'il décide de demander un échec pour l'entreprise coloniale, l'inutilité et le manque de profondeur. La ligne est une condamnation et du régime, et l'intellectuel qu'il provoque une justification à persévérer. Nous voulions retrouver à travers les œuvres d'écrivains qui caractérisent cette évolution, se profiler devant nos yeux une première phase, l'intellectuel et la culture de l'occupant. Par point à celle de ses homologues métropolitains et européennes, les œuvres à un courant bien défini de la littérature. C'est la période assimilationniste. On trouvera dans des parnasiens, des surréalistes. Dans un deuxième temps, le colonisé. Cette période de création à la replongée que nous venons de décrire. Mais comme le colonisé n'est pas inséré dans des relations d'extériorité avec son, il se contente de se souvenir. Ils sont ramenés du fond de sa. Les légendes seront réinterprétées en et d'une conception du monde découverte. Quelquefois, cette sera dominée par l'humour et par la période d'angoisse, de ma mort, expérience aussi. Mais déjà, par en dessous, sa mort. Enfin, dans une troisième période, après avoir tenté de se perdre avec le peuple, va, au lieu de privilégier en réveilleur de peuple. L'intellectuel colonisé, cependant, tôt ou tard, se rendra compte qu'on ne prouve pas sa nation à partir de la culture, mais qu'on la manifeste dans le combat que mène le peuple contre les forces d'occupation. Aucun colonialisme ne tire sa légitimité de l'existence culturelle des territoires qu'il domine. On ne fera jamais honte au colonialisme en déployant devant son regard des trésors culturels méconnus. L'intellectuel colonisé, dans le moment même où il s'inquiète de faire œuvre culturelle, ne se rend pas compte qu'il utilise des techniques et une langue empruntées à l'occupant. Il se contente de revêtir ses instruments d'un cachet qui se veut national, mais qui rappelle étrangement l'exotisme. L'intellectuel colonisé, qui revient à son peuple à travers les œuvres culturelles, se comporte en fait comme un étranger. Quelquefois, il n'hésitera pas à utiliser les dialectes pour manifester sa volonté d'être le plus près possible d'un peuple, mais les idées qu'il exprime, les préoccupations qu'il habite, sont sans commune mesure avec la mesure concrète que connaissent les hommes et les femmes de son pays. La culture vers laquelle se penche l'intellectuel n'est très souvent qu'un stock de particularisme. Voulant coller au peuple, il colle au revêtement visible. Or, ce revêtement n'est qu'un reflet d'une vie souterraine dense, en perpétuel renouvellement. Cette objectivité qui crève les yeux et qui semble caractériser le peuple, n'est en fait que le résultat inerte et déjà nié d'adaptations multiples, et pas toujours cohérentes d'une substance plus fondamentale qui, elle, est en train de se renouveler. L'homme de culture, au lieu de partir à la recherche de cette substance, va se laisser hypnotiser par ces lambeaux momifiés qui stabilisent, qui signifient au contraire la négation, le dépassement, l'invention. La culture n'a jamais la translucidité de la coutume. La culture fuit éminemment toute simplification. Dans son essence, elle est à l'opposé de la coutume, qui, elle, est toujours une détériorisation de la culture. Vouloir coller à la tradition ou réactualiser les traditions délaissées, c'est non seulement aller contre l'histoire, mais contre son peuple. Quand un peuple soutient une lutte armée ou même politique contre un colonialisme implacable, la tradition change de signification. Ce qui était technique de résistance passive peut, dans une période, être radicalement condamné. Dans un pays sous-développé en phase de lutte, les traditions sont fondamentalement instables et sillonnées de courants centrifuges. C'est pourquoi l'intellectuel risque souvent d'être à contre-temps. Les peuples qui ont mené la lutte sont de plus en plus imperméables à la démagogie. Et à vouloir trop les suivre, on se révèle n'être qu'un vulgaire opportuniste, voire un retardataire. L'homme colonisé qui écrit pour son peuple, quand il utilise le passé, doit le faire dans l'intention d'ouvrir l'avenir, d'inviter à l'action, de fonder l'espoir. Mais pour assurer l'espoir, pour lui donner densité, il faut participer à l'action, s'engager corps et âme dans le combat national. On peut parler de tout, mais quand on décide de parler de cette chose unique dans la vie d'un homme, que représente le fait d'ouvrir l'horizon, de porter la lumière chez soi, de mettre debout soi-même et son peuple, alors il faut musculairement collaborer. La responsabilité de l'homme de culture colonisée n'est pas une responsabilité en face de la culture nationale, mais une responsabilité globale à l'égard de la nation globale, dont la culture n'est somme toute qu'un aspect. L'homme de culture colonisée ne doit pas se préoccuper de choisir le niveau de son combat, le secteur où il décide de livrer le combat national. Se battre pour la culture nationale, c'est d'abord se battre pour la libération de la nation, matrice matérielle à partir de laquelle la culture devient possible. Il n'y a pas un combat culturel qui se développerait latéralement en combat populaire. Par exemple, tous ces hommes et toutes ces femmes qui se battent poings nus contre le colonialisme algérien ne sont pas étrangers à la culture nationale algérienne. La culture nationale algérienne prend corps et consistance au cours de ces combats en prison, devant la guillotine, dans les postes militaires français investis et détruits. Il ne faut donc pas se contenter de plonger dans le passé du peuple pour y trouver des éléments de cohérence vis-à-vis des entreprises falsificatrices et péjoratives du colonialisme. Il faut travailler, lutter à la même cadence que le peuple afin de préciser l'avenir, préparer le terrain où déjà se dressent des pousses vigoureuses. La culture nationale n'est pas le folklore ou un populisme abstrait a cru découvrir la vérité du peuple. Elle n'est pas une masse sédimentée de gestes purs, c'est-à-dire de moins en moins rattachable à la réalité présente du peuple. La culture nationale est l'ensemble des efforts faits par un peuple sur le plan de la pensée pour décrire, justifier et chanter l'action à travers laquelle le peuple s'est constitué et s'est maintenu. La culture nationale, dans les pays sous-développés, doit donc se situer au centre même de la lutte de la libération que mènent ces pays. Les hommes de culture africains se battent encore au nom de la culture négro-africaine. Qu'ils ont multiplié les congrès au nom de l'unité de cette culture doivent aujourd'hui se rendre compte que leur activité s'est ramenée à confronter des pièces ou à comparer des sarcophages.